On avait une vision, oui. Hein, on n'était pas sans vision jusque-là. Et le fond de la vision, honnêtement, il n'a pas changé. Par contre, petit sondage, qui connaît, là, qui peut me dire la vision qu'on a jusque-là? Non, c'est pas ça. Eh ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était juste une exhortation d'un week-end de rentrée. Si eux se taisent, les pierres crieront, effectivement. C'était pour nous encourager à crier dans nos temps de louange, à crier dans nos vies. Oui, Aurélie? Non, c'était pas ça. Mais tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est incroyablement vrai parce que ça en fait partie. Mais en fait, notre vision qui se résumait en trois verbes, il y avait aimer, vivre, aller, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est tellement pas simple qu'on ne les retient pas tous. Et puis surtout, si je vous demande, il y avait quoi derrière ces trois verbes? Déjà qu'on a du mal à sortir ces trois verbes, c'était encore plus compliqué de sortir le reste. Donc voilà, ce n'est pas que notre vision elle était bonne, mais c'est qu'il nous semble que c'était important, en fait, qu'on retravaille là-dessus pour qu'on puisse... que cette vision elle soit justement pas un slogan écrit quelque part, mais que ce soit un leitmotiv qui nous rassemble autour de quelque chose de commun. Ok ? Donc je vais arrêter de parler sur l'introduction de tout ça, et puis je vais vous présenter cette vision qui tient en trois aspects. C'est juste une petite phrase qui va ressembler beaucoup à ce qu'il y a ici, effectivement, au « Toi, suis-moi » qui est affiché à l'écran. Qui c'est qui me change mes trucs là-haut ? Non, c'est pas un bug. Et ok, merci David. Et donc la première partie de cette vision, c'est suivre. Ok, vous voyez, il y a de la place sur l'écran encore, hein, on va en rajouter derrière. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, toi, suis-moi. Et puis ensuite, un peu plus tard, à la fin de Matthieu, il nous commande d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Et puis en fait, qu'est-ce que ça nous parle? Au travers de ce que Jésus il a démontré, au travers de ce que les apôtres ils ont enseigné, au travers de ce qu'on a vu, même au travers de l'histoire du peuple d'Israël, de la manière dont il les a appelés, la manière dont il les a fait bouger, la manière dont il a demandé à Abraham de quitter, de prendre son bâton de pèlerin et de traverser le désert jusqu'au lieu de la promesse, l'ensemble de la parole nous parle du mouvement. Elle ne nous parle pas d'être des sédentaires, statiques, assis, juste héritiers d'une bénédiction, assis sur le trône parce que Jésus a tout accompli et que depuis ce point-là, on attend. On attend que Dieu fasse des choses, on attend que Dieu fasse des choses dans nos vies, on attend que Dieu fasse des choses dans notre région, dans notre nation, ou dans notre église, ou dans nos propres vies. Et cette dimension de suivre, elle est absolument capital. Et voilà pourquoi on voulait l'inscrire en premier dans cette vision. Parce qu'elle nous interpelle, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est là pour recevoir ou est-ce qu'on est en premier là pour s'accrocher et suivre et répondre en fait à cette invitation que Jésus il a donnée dans le « Toi, suis-moi ». On l'a aussi dans Marc, quand Jésus il marche le long du lac de Galilée, il voit Simon et André, le frère de Simon, il jette un filet dans le lac, c'était des pêcheurs. Hein, et Jésus il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et là, j'aime ce passage-là, j'ai déjà prêché là-dessus. Aussitôt, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Ce « aussitôt » me parle énormément à titre personnel. Combien de fois dans ma vie est-ce que « aussitôt » je laisse tout pour saisir l'appel que Dieu a pour ma vie? Est-ce que « aussitôt » j'accepte de dire « ok, ce royaume de Dieu que je vois là, ça c'est une priorité dans ma vie, aussitôt ». Donc aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et donc Jésus, il alla un peu plus loin. Et il voit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque, et ils réparaient les filets. Aussitôt, Jésus aussi, il agit aussitôt, il les appelle, et qu'est-ce qu'il se passe? Ils le suivent. Aussitôt, de la même manière, il les appela, ils laissèrent leur père, Zébédée, dans la barque, avec les ouvriers, et ils le suivirent. Suivre, les amis, suivre. Et on a parlé de disciples tout à l'heure, et effectivement, c'est au cœur de cette vision-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui va croire en Jésus et quelqu'un qui va suivre Jésus. Ok? Je suis en train de trahir la suite de la phrase, hein, mais vous avez compris la suite, de toute manière, ça, c'est forcément logique. Mais c'est ça, être disciple. Être disciple, c'est pas être assis et recevoir de l'enseignement. C'est pas être assis jusqu'à ce que je sois prêt, jusqu'à ce que je sois équipé. C'est pas être assis jusqu'à ce que mon cœur y soit plein ou être assis jusqu'à ce que toutes mes blessures, elles aient été soignées. Non, non. Jésus, il est radical dans son appel. Il est radical, il dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, et c'est là le cœur de la notion de disciple, si quelqu'un veut être disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il est fort, Jésus, là. Ok, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le fait d'être en mouvement fait donc partie complètement intégrante du fait d'être disciple de Christ. Voilà. Et donc, si quelque part, dans un coin de nos têtes ou dans un coin de notre cœur, on avait dans l'idée que être disciple, ce à quoi Jésus nous appelle, ça pouvait aussi correspondre avec le fait d'être juste assis sur ma chaise et recevoir, eh bien, j'aimerais juste que ça nous exhorte, que ça nous punche, que ça nous bouge un petit peu cet après-midi à revoir le schéma de pensée qu'on a par rapport à ça et qu'on se laisse interpeller par à quel point la dimension de l'appel, la dimension du mouvement est hyper importante dans notre vie chrétienne. On ne peut pas passer à côté. Alors, on peut avoir de bonnes raisons pour dire à Dieu « Attends, attends parce que je dois d'abord faire ceci » ou « Attends parce que je ne suis pas prêt » ou « Attends parce que j'ai besoin de faire ceci ou de faire cela ». Et on le voit dans Luc 9, 59-62, Jésus appelle plusieurs personnes et notamment, voilà, Jésus dit à quelqu'un « Suis-moi », mais cet homme lui dit « Seigneur, permets que j'aille enterrer mon père d'abord ». C'est légitime. Non, c'est légitime. Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui répond, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. Encore une fois, Jésus est dur dans cette parole. Il est absolument radical. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Alors Jésus, il est fort dans ce passage. Est-ce que Jésus il dit qu'on ne doit pas s'occuper des obsèques des uns et des autres? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper de choses? Non. Il est en train de parler d'un système de priorité. Il fait de cette situation-là un exemple pour dire « Mais si tu as absolument envie de me suivre, alors aussitôt, laisse tout et suis-moi. Aussitôt, fais du royaume de Dieu ta priorité. » Si Jésus répond ça, c'est que cette question de l'attachement au décès de son père, à sa famille, à tout ce qui se passait, prenait une place plus importante dans son cœur que l'appel que Jésus était en train de lui lancer et auquel il voulait répondre. Et ça nous interpelle, ça. On a sûrement plein de raisons, des fois, pour dire « Ok, Seigneur, j'ai envie de rentrer dans tout ce à quoi tu m'appelles, j'ai envie de courir dans tes plans. » Et en même temps, attends, Seigneur, parce qu'il y a aussi ça. Et puis il y a aussi ça, et il y a encore ça. Et Jésus, il continue dans ce passage, et il envoie encore un autre, et c'est une personne qui lui dit « Je te suivrai, Seigneur !» Oh, combien j'aimerais rencontrer plein de gens comme ça, qui me croisent en disant « Moi, je veux suivre le Seigneur, dis-moi comment faire !» Oh, yeah ! « Mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Et Jésus lui répond, « Celui qui regarde derrière au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Alors, j'espère que ça nous remet tous un peu en question. L'idée, elle n'est pas du tout d'être légaliste, là, les amis, cet après-midi. L'idée, elle n'est pas de poser une loi là-dessus. Elle n'est pas de dire qu'est-ce qui est absolument plus important que le reste. Si tu t'occupes de tes parents, ou si tu t'occupes de ta famille, ou si tu t'occupes d'autres choses qui sont terrestres, tu es dans l'erreur, absolument pas. Ce n'est pas mon propos cet après-midi. Jésus, il est juste en train de nous parler d'un référentiel de valeur. Il est en train de nous dire que quand le royaume de Dieu occupe la première place, le royaume de Dieu occupe la première place. Et que des fois dans nos vies, on dit que le royaume de Dieu occupe la première place, et puis on a en fait au fond de nos cœurs plein d'autres raisons de dire à Dieu « Attends ». Alors voilà pourquoi, dans notre vision, on aimerait qu'elle nous interpelle tous les uns et les autres, et nous en premier. Je me le dis à moi en premier. Oui, suivre. Je veux être dans cette dimension-là. Et j'ai dit que Jésus était radical, Jésus, il est dur dans ce qu'il raconte, mais en même temps, souvenons-nous aussi des promesses de la parole qui sont autant vraies que ce que Jésus a dit juste avant que je vous ai lu dans Ésaïe 40, 31, qui nous dit « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Et donc, il y a un principe, en fait, biblique, qui est que dans la marche, alors que nous suivons, alors que nous nous mettons en mouvement dans nos vies, des choses se passent. Des guérisons arrivent sur nos cœurs, sur des blessures, des situations se débloquent. Alors oui, et aussi de la tribulation, et aussi des choses difficiles, et aussi de l'épuisement parfois, mais cette promesse reste vraie que alors que nous nous mettons en marche, alors que nous choisissons de suivre, Dieu honore et Dieu bénit et Dieu restaure et Dieu redonne des forces et Dieu porte sur l'aigle pour nous donner de voir une perspective plus lointaine. Combien de fois dans nos vies, on était juste comme moi, comme, avec des, comme dans une impasse en disant « Mais Seigneur, je ne vois pas l'issue. » Eh bien, commence à marcher. Commence à marcher, commence à te mettre en mouvement et à dire « Ok Jésus, je veux juste obéir, te suivre. Je ne vois pas où, je ne vois pas comment, mais dans mon cœur, je veux suivre. » Et là, il y a cette promesse que Dieu nous fait prendre de la hauteur sur l'aigle. Et je suis certain que la perspective sur les choses n'est pas la même dans nos propres vies alors que nous disons « Ok Seigneur, je veux juste obéir et suivre. » Ok ? Donc, suivre, on est tous d'accord ? Suivre Jésus. Ok ? Suivre Jésus, parce que suivre, ça implique forcément que quelqu'un y soit devant. Ok ? Et on suit dans nos vies, on suit plein de choses. Il y a plein de sujets, plein de personnes, plein de choses qu'on met devant nous et qu'on a envie de suivre comme ça. Mais en fait, selon la parole de Dieu, tout concerne Jésus. On ne suit rien ni personne d'autre que Christ. Et je vais expliquer tout ça pour que vous compreniez quand je veux dire Jésus. Parce que... Ouais, on va en parler après. Je voulais juste lire Colossiens 1, 15 à 20, qui nous parle de Jésus, qui nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, l'image de son Père, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Que la parole est riche, que cette révélation de qui est Jésus dans le dessein parfait que son Père a accompli dans l'histoire est précieux pour nous. Et voilà pourquoi je dis que nous devons suivre Christ, parce que nous sommes appelés à suivre celui qui est la tête du corps, celui qui est le chef de l'Église, celui en qui Dieu a tout réuni. Mais est-ce que, quand on dit suivre Jésus, ça veut dire que nous sommes Christo-exclusifs ? C'est-à-dire qu'on oublie que Dieu n'est pas que Jésus, mais que Dieu est Père, que Dieu est Fils et que Dieu est Esprit. Eh bien non, non. Non, suivre Christ, c'est par son esprit que nous pouvons le faire uniquement. Et Jésus nous conduit au Père. On l'a lu juste avant. Jésus, il est l'image de ce Dieu invisible. Et si nous suivons Christ, nous ne pouvons pas manquer le Père. Si nous suivons vraiment Christ, nous ne pouvons pas manquer le Père. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a cessé de démontrer qui était son Père. Il n'a cessé de pointer vers le Père. Et ceux qui ont suivi Christ ont entendu parler du Père, ont vu qui il était. Jésus les a interpellés en disant « Vous ne connaissez pas le Père, et pourtant je suis avec vous depuis tant de temps. Vous me suivez, et vous n'avez toujours pas compris qu'en me suivant, vous allez au Père. » Donc non, on n'est pas dans une relation où il n'y a que Jésus qui compte. Dans notre relation, nous relationnons à un Dieu qui est triple et qui est un en même temps. Et on croit que, alors que Christ, il est au centre de nos vies, eh bien, nous sommes en relation avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Et c'est ce que Jésus, il nous dit dans Jean 14, 6, 7, quand il nous dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce qu'il s'arrête là en disant « Tout me concerne et tout parle uniquement de moi » ? Non, il dit « Personne ne vient au Père, sinon par moi. » Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors voilà ce qu'on vous propose dans ce début de vision, suivre Jésus. On n'est pas en train de parler que de Jésus, on est en train de parler de tout ce qui se passe derrière ça quand on suit Christ de tout notre cœur. On parle de s'attacher à ce Dieu qui nous a créés. On parle de s'attacher de tout notre cœur à celui qui est devant nous et qui marche et qui est en mouvement. Et d'entrer dans une relation large avec Dieu. Ce que le Père a choisi d'accomplir à la croix au travers de son Fils, c'est juste quelque chose d'absolument incroyable. Alors qu'on était complètement séparés, alors que, en tant que pécheur, si moi je me tenais dans la présence de Dieu, je mourrais. Nul pécheur ne peut tenir dans la présence parfaite du Dieu des cieux. Mais au travers de Jésus, voilà ce qui se passe. Au travers de Jésus, cette relation est restaurée. Au travers de Jésus, il y a un voile qui a été déchiré, il y a un chemin qui a été tracé dans le temple. Et est-ce que c'est par nous-mêmes, est-ce que c'est de notre propre fait que nous pouvons maintenant marcher juste couverts par le sang de Jésus-Christ au travers de ce chemin qui a été ouvert une fois pour toutes ? C'est-à-dire le chemin a été ouvert et puis maintenant moi je peux l'emprunter ? Non, c'est Jésus qui emprunte ce chemin. Et alors que ma vie, elle est en Christ, oui, je peux passer avec Christ au travers de ce voile. Et oui, je peux me tenir en Christ dans la présence du Père. Et voilà pourquoi, quand on parle de suivre Christ, c'est absolument essentiel. Parce qu'on ne peut pas passer par un autre chemin que celui-là. Et je vais finir sur cette vision en disant que c'est tous les jours. Et voilà la vision qu'on vous propose, suivre Jésus. Tous les jours. Cet appel à suivre Christ, c'est la vocation de toute notre vie. C'est pas quelque chose qui est réservé au dimanche matin, pas quelque chose qui est réservé à un temps où on se retrouverait une fois dans la semaine à une réunion de prière ou à quelque chose comme ça, ou un temps de culte personnel qu'on a chez nous-mêmes. C'est notre vie entière qui est modelée par cet appel-là. Suivre Christ tous les jours, c'est un appel à marcher à la suite de ce roi des rois tous les jours de notre vie. Et voilà pourquoi je disais que cette vision-là, elle va bien plus loin que juste des temps où on se rassemble entre nous. C'est une vision qui doit porter la vie dans chacune de nos vies. La vie de Christ partout où nous sommes, et qu'on soit près d'ici, qu'on soit loin avec des amis qu'on ne voit pas souvent. Oui, que cette vision s'attache à leurs pas et qu'elle prenne vie là où ils sont. Et Jésus nous dit, après nous avoir dit « Allez !» dans Matthieu, il nous dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et des fois, on passe un peu vite sur ce « tous les jours ». Mais qu'est-ce que c'est incroyable ce que Jésus est en train de nous dire là. Allez, et moi je suis avec vous tous les jours, parce que cette mission-là, c'est une mission de tous les jours. C'est une mission permanente. Parce que nous sommes disciples, parce que nous ne sommes pas croyants. Parce que nous voulons marcher à sa suite, parce que nous voulons suivre les traces de Christ, être en lui et pratiquer ce que Jésus nous appelle à pratiquer tous les jours, les œuvres du royaume. Et on reviendra sur tout ça pendant toute l'année. Et ça veut dire donc à la maison, ici, quand je suis seul, quand on est en famille, quand on est avec des amis, quand je suis au travail, quand je suis à l'école, que mes amis soient chrétiens, qu'ils ne le soient pas. Tous les jours, les amis. Suivons Jésus. Tous les jours, suivons Jésus. Et j'aimerais nous interpeller à rechercher dans nos vies... Merci. D'accord. Rechercher dans nos vies, en fait, la manifestation concrète de ce que ça peut vouloir dire de suivre Jésus tous les jours. Moi, je voudrais vraiment nous laisser avec quelque chose où... Non, que cette vision, elle ne soit pas juste quelque chose de théorique, s'il vous plaît. Qu'elle ne soit pas quelque chose de théorique. Et je me le dis à moi aussi. De quelle manière cette vision-là, elle prend vie de manière concrète dans ma propre vie, dans ma propre famille? De quelle manière est-ce qu'elle prend vie dans vos propres vies, dans vos propres familles? De quelle manière nous sommes une poignée de disciples? À 12, Dieu leur a donné le monde. On est plus que 12. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble si on laisse cette vision, si on laisse cette dimension d'être vraiment un disciple grandir en nous? Et n'ayons pas peur de rêver, n'ayons pas peur de lancer des projets. Moi, je bénis le Seigneur pour tous les projets qui sont nés au milieu de cette église, pour la moisson d'idées que Dieu donne à Joël, des projets qui prennent vie avec l'école, avec ce qui se fait, avec la connexion, avec la synagogue, tout ça, ce qui se passe en ce moment au niveau du camion pour les douches, pour les sans-abri, cette association Les Fleuves d'Ovide avec David qui prend une ampleur qui est juste incroyable, ce qui se fait au Prada avec l'accueil des réfugiés, et combien encore, et combien encore, et combien encore. Je ne pourrais pas tout citer ce qui se fait, mais continuons. À cultiver ça, continuons à rechercher ça, d'accord? N'attendons pas simplement qu'il y ait une vision là qui descende toute seule. Recherchons, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie de te suivre tous les jours? Laissons-nous interpeller par ça. Recherchons en fait quel est l'impact de notre communauté locale, quel est l'impact de notre famille autour de nous, quel est l'impact de notre communauté locale dans notre ville sur laquelle nous sommes plantés. En quoi notre église de Marguerite, là, fait une différence dans la ville de Marguerite? Et si demain on n'était plus là, qu'est-ce qui change pour notre ville? Moi, je voudrais que la ville nous dise, mais surtout ne disparaissez jamais, on a trop besoin de vous. On a trop besoin de ce que vous faites, que ce soit ici, que ce soit Nîmes. Parce que alors qu'on se lève et alors qu'on veut suivre Jésus tous les jours, alors on porte une vie qui est un trésor pour le monde. Elle est un trésor pour le monde. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus nous le dit dans Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Quelle grâce, Seigneur, et quel mystère que tu nous choisisses pour ça. » Et pourtant, c'est une vérité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voilà le dessein du Père manifesté en Jésus, révélé par l'Esprit pour chacun d'entre nous et pour notre communauté tous ensemble. Alors, que ça nous bouge sur le témoignage personnel, que ça nous bouge dans l'évangélisation tous ensemble, que ça nous bouge sur la dimension de la mission de notre Église, que ça nous bouge dans nos temps de louange personnel à la maison, que ça nous bouge dans les temps de louange collective qu'on a tous ensemble, que ça nous bouge par rapport à la lecture et l'enracinement dans la parole de Dieu, à l'enseignement, que ça nous bouge sur la prière, que ça nous bouge dans la connexion les uns aux autres, que ça nous bouge dans notre participation au groupe de vie, que ça nous bouge dans notre participation à Alpha, que ça nous bouge dans notre participation et notre service auprès des enfants, que ça nous bouge dans tous les domaines qui se trouvent à portée de notre main. Amen. 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 Alors voilà notre vision, voilà celle qu'on vous propose. Pas juste la vision pour une année. On voudrait vraiment vous laisser que cette vision-là, elle est l'ADN autour duquel on bâtit tout ce que nous bâtissons ensemble. D'accord ? C'est l'ADN, c'est ce qu'on retrouvera au niveau de notre logo, c'est ce qu'on retrouvera sur le site internet, parce que ben, ça permet de communiquer dessus, mais encore une fois, que ça ne reste pas un slogan, que ça ne reste pas un outil de com, que ça ne reste pas quelque chose d'écrit quelque part, mais vraiment, 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 qu'on cherche à vivre ça, et que pendant toute cette année, on cherche à développer ça de manière plus vraie encore. Moi, je veux être débordé de tous les projets qui naissent suite à ça cette année. Je voudrais qu'on soit débordé dans l'Église de dire, mais comment on fait pour faire tout ce qu'on a envie de faire? Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement, tout le temps, toujours. Alors soyons en mouvement avec lui. Amen. Amen. Ok. Pierre, je te laisse la place.